Je sais pas comment vous faites, mais à chaque fois que je sors, j'oublie de prendre un masque. Ceux qui doivent travailler toute la journée, avoir des masques, c'est quelque chose. Et franchement, ce Covid, c'est vraiment des attaques diaboliques sur le monde. Et l'Église, entre autres, est vraiment touchée. Et nous devons vraiment lutter contre cela. Nous ne devons pas nous habituer à ce Covid, parce que j'ai l'impression qu'il est là depuis un an et puis qu'on a décidé que, ça ne fait pas partie du message, hein, qu'on va vivre avec. On va s'accoutumer avec le Covid. Moi, je me souviens, c'est que tous les ans, je priais pour les virus, la grippe, pour toutes ces choses, pour qu'elles ne touchent pas nos frères et sœurs. Mais on ne prie pas pour le Covid. J'entends rarement prier pour le Covid, que le Covid soit brisé dans le nom de Jésus. Moi, je crois qu'à chaque fois que je devrais prendre un masque, et je ne le fais pas moi-même, et c'est une erreur, dans le nom de Jésus, je veux briser ces attaques sataniques au travers de ce Covid qui détruit notre société, a détruit l'Église, a détruit la communion fraternelle, a détruit l'Assemblée, regardez ce que nous sommes ce matin, elle détruit beaucoup de choses, ce Covid détruit. Et nous sommes là pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous avons la puissance de la prière, nous avons la puissance de la parole appuyée par le nom de Jésus. Et nous devons pratiquer cela. Vous savez, l'été, quand c'est la période d'été, il arrive les fourmis. Et je pense que beaucoup qui ont des pavillons, des choses comme ça, ont dû voir rentrer des cortèges de fourmis dans votre maison. Et ce n'est pas agréable. Tant qu'ils sont dans le jardin, on sait bien, c'est chez eux. Mais quand ils commencent à envahir la maison, on n'apprécie pas. Et on a des petits produits qui permettent de faire une petite ligne. Et quand les fourmis arrivent, ils s'arrêtent sur cette ligne. Ils mangent le produit qui est sur cette ligne, ils meurent et ils ne rentrent pas dans la maison. Eh bien, on peut faire la même chose avec le Covid, je pense. Et ça, on n'y pense pas non plus. Le Covid, eh bien, écoutez, il y a quand même quelque chose qui est terrible. C'est quand le peuple est sorti d'Égypte, la dernière plaie était quoi? Il fallait mettre du sang sur les linteaux et les poteaux de la maison pour pas que l'ange exterminateur rentre. Eh bien, nous avons ce pouvoir sur les poteaux, les linteaux de notre maison, c'est-à-dire quand vous rentrez chez vous, de dire « je bénis cette maison » et le Covid n'a pas rentré dans cette maison. Le Covid n'a pas rentré dans cette maison parce que cette maison, c'est Jésus qui habite. C'est la demeure de Jésus. J'habite et Jésus vit en moi. Et si Jésus vit en moi, si je vis dans cette maison, le Covid n'a pas rentré. Et nous devrions prier. Vous savez, les Juifs ont cette fameuse petite plaque, ce qu'ils appellent la mezouza, et qui prient, quand ils sortent de leur maison, ils prient pour cette bénédiction. Et quand ils rentrent, c'est la même chose. Et bien, quand vous rentrez chez vous, dites dans le nom de Jésus, le Covid, tu ne rentres pas chez moi. On peut inviter des gens, on peut recevoir des gens, mais le Covid, toi, tu ne rentres pas. Parce que c'est là, souvent, dans les réunions de famille, que se développe ce Covid. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir de dire non à l'ennemi. Tu ne nous touches pas, tu ne rentres pas, tu n'as aucun pouvoir sur nous, parce que celui qui est en nous est plus grand que toi, que celui qui est dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais, une parenthèse. Ce matin, je me réjouis parce que, d'abord, je vais prier. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est là pour nous enseigner, pour nous conduire. Et ce matin, je me réjouis parce que, déjà, ton esprit nous a conduits dans les cantiques, dans les chants, et nous voulons continuer d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Que vraiment nous soyons enrichis de toute la connaissance que tu veux nous donner encore ce matin, dans le bon nom de Jésus. Amen. J'ai aimé que Vincent, ce matin, a choisi un chant, le psaume 23. Parce qu'une partie du message, la première partie du message, effectivement, eh bien, c'est dans le psaume 23, je vais vous le lire. C'est pas grave. Vous ouvrez vos bibles, vous le lisez. Bon, il est entouré. Et puis, depuis un certain temps, vous savez, quand on prend un peu de la bouteille, qu'on vieillit, eh bien, les pensées sont plus difficiles. Et j'ai beaucoup plus de mal à emmagasiner des cantiques quand on est jeune, c'est plus facile. J'ai appris des tas de versets que je connais par cœur aujourd'hui, mais quand aujourd'hui je vais apprendre un certain nombre de versets par cœur, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ça rentre difficilement. Et c'est pour ça que ça fait au moins un mois que je récite régulièrement le psaume 23. L'Éternel, je vais vous le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que nous avons chanté, c'est le premier chant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, virgule, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alléluia. Alléluia, c'est un cantique qui a été remis à jour. Mais ce psaume de David, bah, qui est David en fait? Ce qui est dommage, c'est qu'on a pu... C'est beaucoup plus difficile de faire de l'interaction. D'abord, il n'y a presque plus d'enfants dans l'église. Hein, mais qu'est-ce que vous diriez? Qui est David? Vas-y.
C'est celui qui s'est fait... qui a été jeté au lion.
Là, il est un peu perdu. David. David, un roi. David, quoi encore? Un berger. Bah oui, hein, s'il écrit ce psaume, si David avait été potier, il aurait peut-être écrit un psaume sur la poterie. Mais David a écrit un psaume sur le berger, parce qu'il a été lui-même berger. David a été berger. David a été roi. C'est vrai, David a été roi. David a été guerrier. Les enfants connaissent bien David et Goliath. David, c'est quelqu'un qui a vécu des hauts, des bas. Il s'est battu. Le roi Saül a voulu plusieurs fois le tuer. Il l'a poursuivi. Il lui faisait de la musique et le roi Saül a lancé son javelot pour essayer de l'épingler un peu comme un papillon. Absalom l'a destitué. Absalom a voulu prendre sa place en tant que roi. C'est vrai que ce n'était pas facile pour David. David, quand il revenait du combat avec Saül, Saül en a tué 1000 et David en a tué 10 000. C'est difficile de se faire des amis dans ces cas-là. Le roi, il veut être au-dessus et pas en dessous. Donc David, c'est à la fois un berger. C'est par là qu'il a commencé. Il était berger. Et c'est pour ça qu'il peut très bien parler de ce psaume. C'est lui qui pouvait l'écrire, parce qu'il a été berger. Il est passé par la royauté, il est passé par des hauts et des bas, il a été caché dans des grottes, on le poursuivait, on le chassait. Et c'est pour ça qu'on peut prendre cette lecture et la regarder plus en détail. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand il parle de ça, David... Il parle pas de lui, hein, il parle de l'Éternel est mon berger. Il a cette notion de voir que l'Éternel est comme un berger, il prend soin de nous, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez que... Faire reposer dans de verts pâturages, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut avoir un peu d'imagination, peut-être fermer les yeux. C'est une jolie pelouse, agréable. Quand l'été il fait chaud, vous vous mettez sous un arbre, c'est plein de verdure, il y a des petites fleurs, c'est mignon comme tout. Vraiment, c'est le coin de repos. Vous savez que dans des ateliers de confection, dans des ateliers où on travaille des petites choses, souvent on met du verre. Parce que le verre repose les yeux. La verdure, c'est quelque chose de reposant, c'est quelque chose... Et puis en plus, c'est quelque chose, je ne manquerai de rien, c'est la nourriture. À l'époque, la grande partie de la nourriture venait de la terre et du gazon qui était là. Et puis David aussi, il connaissait vraiment par cœur ce métier de berger. Il l'a fait pendant des années. Moi, je connais aussi des bergers parce que mes beaux-parents habitaient et à côté, il y avait une ferme avec des moutons. Et le berger, c'est quelqu'un qui, quand il pousse un cri, tous les moutons, ils accourent. Je me souviens une époque où mon beau-père s'est mis à hurler parce que le pré qui était à côté de la maison, les moutons, ils avaient sauté de l'autre côté de la barrière, ils mangeaient tous les légumes de mes beaux-parents. Alors mon beau-père n'était pas heureux, il poussait des hurlements. Et d'un seul coup, le berger est sorti. C'était une vallée comme ça, donc mes beaux-parents étaient d'un côté de la vallée, il y avait un trou, et puis de l'autre côté, la ferme. Et le berger est sorti, il a poussé des cris. Et vous auriez vu comment les moutons se sont sauvés et sont rentrés là où ils devaient être. Mais est-ce qu'on est capable d'entendre aussi, nous, quand le Seigneur crie, quand le Seigneur nous dit « Attention, ne fais pas, ne va pas ». Donc le premier pas, c'est « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Ah, moi j'aime bien les verts pâturages. C'est la partie reposée. Il me dirige près des eaux paisibles. Bah oui, vous connaissez aussi les eaux paisibles. Hein. On peut lire quand même dans Jean 4, 13. Ce qui nous est dit sur les eaux paisibles. J'ai bien pris parce que Jean 4, 13. Vous savez, c'est l'histoire, je ne vais pas la reprendre en entier, hein. C'est l'histoire de la Samaritaine qui vient puiser l'eau et puis Jésus va lui demander à boire. Et à un moment donné, à partir du verset 13, Jésus lui répond « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » J'aime le verset 15. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ah bien, à l'époque, et puis quand vous regardez des émissions sur l'Afrique, les petits villages, les femmes continuent d'aller puiser l'eau, des fois font des kilomètres avant de trouver un endroit où l'eau est potable, ou plus ou moins potable. Ils font la même chose pour aller ramasser du bois, pour faire la cuisine. C'est quelque chose de fatigant. Et puis, il y a plusieurs histoires sur de puiser l'eau. Parce qu'ils donnaient en même temps, ce n'était pas uniquement pour eux, leurs besoins personnels, mais c'était pour aussi les troupeaux. Donc, quand on venait puiser, ce n'était pas puiser 2-3 litres d'eau comme ça pour rigoler. C'était un travail harassant. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus ? Celui qui boira de mon eau n'aura plus soif. Et il est même dit dans un autre texte, des fleuves d'eau vive couleront de vous. Je crois que ces deux premiers versets, moi je l'intitulerais pour les jeunes chrétiens. Quand on vient à Jésus, d'un seul coup, on est dans ces verts pâturages. On est dans ces eaux qui coulent et qui nous rafraîchissent. Et on a tellement reçu quelque chose quand on reçoit Jésus qu'on a envie de donner. On a envie que c'est des fleuves d'eau vive coulent de nous. On a envie de témoigner partout. Oh, j'ai découvert Jésus. J'ai découvert Jésus. C'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est la première partie, mais on continue dans le psaume. Il faut que j'y retourne. J'aurais dû garder la page. Psaume 23. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Restaurer. Qu'est-ce que ça veut dire restauration? La restauration, c'est parce que quelque chose n'est pas en bon état. Quelque chose est cassé, quelque chose est déglingué, quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Notre âme a besoin de réparation. On a besoin que notre âme, on le dit souvent, que se convertisse. Moi, je dis, Saint-Esprit, convertis mon âme, parce que mon âme, elle est rebelle. Notre âme est rebelle. Notre âme nous résiste. notre âme ne fait pas toujours ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Et là, il dit, il restaure mon âme. Ouais. C'est transformer nos pensées. Transformer nos pensées. C'est quelque chose, ça. Nos pensées, le Seigneur dira, mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées. Notre âme, c'est un peu notre ennemi, en fait. C'est notre ennemi. Et on a besoin d'être réparé, d'être reconstruit. Et on a besoin de dire, ben, Saint-Esprit, travaille sur mon âme, conforme-la à la volonté de ta volonté, Seigneur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça, je sais que tous, que vous êtes ici, vous ne supportez pas l'injustice. C'est quelque chose qui est terrible, l'injustice. À cause de son nom, à cause du nom de Jésus, il nous est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là, c'est le temps de l'épreuve, sentier de la justice, soif de vérité, de justice, chemin que Jésus veut nous faire emprunter. Mais le temps de l'épreuve, c'est quoi? C'est pas facile. Qu'est-ce que l'épreuve d'abord? L'épreuve, c'est quand on est à l'école, on va passer le bac, on va passer un CAP. Je demande souvent, des gens ont demandé, prie pour moi parce que je dois passer le permis de conduire. L'appréhension de passer cette épreuve. Et puis, il y a des épreuves qui sont éliminatoires. Non, il n'y en a pas avec le Seigneur. Aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Il nous permet de passer par des épreuves pour nous faire grandir, mais aucune épreuve n'est au-delà de force. Parce qu'il a dit, à cause de son nom, il est avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hein? C'est facile des fois quand on le lit, mais quand on est dans des épreuves, ça peut être des épreuves aussi dans le foyer, dans les conflits. Regardez aussi avec ce Covid aujourd'hui, le conflit qu'il y a, les femmes qui sont battues. Ben, je pense pas, on parle beaucoup des femmes parce que c'est quand même la majorité, mais il y a aussi des hommes qui sont maltraités par des femmes. Et ça, c'est terrible parce que le confinement accentue des alliances qui sont pas très bien scellées, pas très bien fermes. Quand on est ferme et quand on est dans l'épreuve, on se resserre. Mais quand il y a déjà une division dans le foyer, quand il y a une épreuve, ça éclate. Et c'est pour ça qu'on voit tant de divorces, tant de séparations, parce qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est comme ça, je claque la porte et je m'en vais. Mais c'est pas ça, il nous dit là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette, voilà mon réconfort. Ça ne veut pas dire qu'il nous en sort, mais il va nous donner le moyen de nous en sortir. Mais ça va être du combat. On est dans une phase de combat. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je l'avais parlé une fois de ce repas de Sainte-Cène, où on est là, on prend le repas, et c'est un peu ça. Les adversaires sont à un côté de la table, et les chrétiens sont de l'autre côté. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas franchir. Si on a le sang de Jésus, si on a accepté la croix, et qu'on est sauvé, on est d'un côté. Et le Seigneur nous a laissés dans le monde, c'est vrai, mais il ne nous a pas dit de vivre avec le monde. Nous devons avoir cette séparation par le sang de Jésus. Par le sacrifice à la croix, nous sommes d'un côté de la table. Et c'est le bon côté, parce que ce côté-là, vous avez vu ce qu'il est écrit? Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Waouh! C'est plus les dames qui aiment se parfumer, mais c'est quelque chose d'agréable. Moi, je ne me parfume pas, très peu, mais j'aime bien, c'est quand il fait chaud l'été, de mettre les crèmes ombre solaire ou des choses comme ça. D'abord, c'est des bons parfums, c'est agréable et ça nous rend une peau douce et agréable. Et c'est ce que le Seigneur il veut faire avec nous. Il va jusque-là, dans l'intimité de nos vies, de nous coucouner, comme on dirait. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu vois un d'huile ma tête et ma coupe déborde. On a un Dieu de bénédiction, un Dieu de multiplication qui veut nous donner, donner et donner encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Moi, j'aime bien, c'est mes anges. Alors, le bonheur et la grâce sont là. Ils m'accompagnent tout le jour de ma vie et je reviendrai dans la maison d'éternel. Ce cantique est quelque chose de formidable, de merveilleux. Le bonheur et la grâce. Et tout cela, c'est pour nous faire comprendre une chose, comment Dieu nous aime. Comment Dieu est vraiment le bon berger qui prend soin de son troupeau, qui veille sur lui. Je ne vais pas parler de ça non plus. Le berger, quand il rentre dans un pâturage, il en fait le tour pour voir s'il n'y a pas des mauvaises herbes, des mauvaises plantes, que quand le mouton va manger, il va être malade. S'il y a des mauvaises herbes, des mauvaises plantations, il va les arracher avant d'amener le troupeau dans le pâturage. Il va y veiller, comme il veille aussi pour l'amener près d'un courant d'eau, c'est-à-dire un endroit calme aussi, de pouvoir se désaltérer. Eh bien, c'est l'Église aussi. C'est là où on vient et qu'on peut recevoir la bénédiction, recevoir la parole de Dieu qui doit couler en nous, qui doit nous faire du bien. Que quand on repart, ah, j'ai passé un bon moment, le Seigneur m'a béni, m'a conduit. Et pour cela, je voudrais vous prendre deux textes qui sont dans le Deutéronome 33. Parce que Dieu, depuis le départ, Deutéronome 30, verset 3. Dieu a un plan pour son peuple. Et là, c'est 30. Il parle, c'est les promesses et les menaces. Donc, on ne va pas tous les lire, heureusement. Alors, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura disséminé. Oui, on est dans un texte où Dieu prend soin de son peuple. Le peuple a été disséminé, mais malgré ça, Dieu dit, je vous rassemblerai de nouveau. C'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a un mot que j'ai, et c'est ce mot-là qui m'a, j'aurais pu dire, captivé. L'Éternel ramènera les captifs, il rassemblera encore au milieu. Il aura compassion. Compassion. Waouh. Compassion, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Excusez-moi. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, peut-être même qu'on ne connaît pas. Alors je me suis dit, tiens, il serait peut-être bien qu'au niveau de la compassion, je regarde ce que le dictionnaire nous dit. La définition de compassion. Mais avant d'aller là, je vais peut-être quand même aller plus loin, parce que là, on est dans l'Ancien Testament, et il faudrait savoir aussi que dans Matthieu, ou dans les psaumes, psaume 103, enfin, c'est pas les psaumes, on retourne dans les psaumes, psaume 103, 13, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et le 116, psaume 116, 5. L'Éternel fait grâce et il est juste, notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Et puis dans, on va voir le Nouveau Testament, Matthieu 9. Matthieu 9, 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, prêchait l'évangile du royaume, guérissait toutes les maladies et toute infirmité. Alors, à la vue des foules, il eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. À la vue des foules, il eut compassion. Compassion. Car les foules étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oui. Donc la première partie nous fait voir, du psaume nous fait voir que Dieu nous aime et qu'il a compassion de nous et qu'il veut vraiment nous sortir d'où nous sommes. On le voit bien dans ce texte où il nous est dit, ils sont abattus. Oh, c'est terrible. Quand quelqu'un est abattu, quand quelqu'un a envie d'abandonner, de lâcher. Alors c'est pour ça que j'ai été chercher la définition, parce que c'est un mot qu'on voit, qu'on retrouve dans la Bible un certain nombre de fois, mais que de nos jours, je ne sais pas si la définition du dictionnaire va vous faire comprendre. Sentiment qui porte à plaindre autrui, à partager ses souffrances. Dans notre monde d'égoïsme, partager les souffrances des autres, c'est pas évident. Il nous est dit aussi porter à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui et à pousser à y remédier par l'amour, par la morale ou l'éthique. Ça veut dire aussi je souffre avec lui. Et là, je vais prendre un texte dans Luc 10. C'est connu. Hein. 10, 25. C'est la parabole du bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour mettre à l'épreuve, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit qu'il est écrit dans la loi, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais il voulut se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus de reprendre la parole est dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin, vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva du même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, arrivait près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha, et banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Il le plaça sur une propre monture, le conduisait à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, le donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et que ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, ta foi, et fais de même. Ce sentiment, là, c'est quelque chose de profond. La compassion. Est-ce que nous sommes compatissants? Est-ce que nous sommes compatissants, nous qui avons... sommes bénis, richement bénis. Autour de nous, il y a de la souffrance. Il y a les étudiants qui n'ont même pas de quoi manger, qui sont des fois cloîtrés dans des chambres de moins de 10 mètres carrés. Des moments où des commerçants vont peut-être même aller jusqu'à se suicider parce que Là, avec le nouvel confinement, ça va encore faire plus de dégâts. Les restaurants qui sont fermés depuis X temps, qui essaient de se débrouiller en faisant des livraisons, mais ça, c'est quelque chose de terrible. Est-ce qu'on est compatissant pour ces gens-là, alors que nous avons tout? Est-ce que le Seigneur nous met à part, nous a mis à part? Je vois, moi, tous mes enfants ont du boulot, hein, même si ce n'est pas toujours dans le métier qu'ils auraient voulu faire, puisque y en a un qui son école a fermé, mais il a trouvé du travail. On est béni, on est richement béni. C'est pour ça que je vous ai fait. J'ai prêché sur le psaume 23, qui est quelque chose de merveilleux. Mais est-ce qu'on est compatissant par rapport à ceux du monde? Alors je vais vous donner ce texte, vous comprenez, hein. Est-ce qu'on passe, est-ce qu'on est comme le Samaritain? Est-ce que nous allons passer à côté de ceux qui souffrent et nous arrêter de s'occuper de lui? Ou nous allons faire comme les autres? Passer simplement sans les voir, sans entendre leurs souffrances, sans déterminer. Déterminer la souffrance n'est pas quelque chose de simple. D'abord, il faut du temps. Et ça, c'est une chose que notre société ne fait pas. Aujourd'hui, tout doit aller vite. Internet, tout doit aller vite. On doit aller de plus en plus vite, avancer de plus en plus vite. Alors, s'arrêter pour regarder ton voisin, ta voisine, comment se porte-t-elle? Moi, je l'avais déjà dit dans l'église, quand quelqu'un disparaît pendant 2-3 semaines, tiens, il y a de long qui ne vient plus, est-ce qu'on a essayé d'aller le voir? Comment il va? Qu'est-ce qu'il se passe? Vous savez, c'est important, parce que si on ne fait pas ça, on peut se retrouver avec quelque chose de grave. Je vais vous finir par une lecture, c'est pas une lecture dans la Bible, mais c'est dans une lecture que je prends tous les jours, et qui va vous expliquer que le bon samaritain a fait la bonne part, a pris le bon de s'occuper de cet homme. Là, je vais vous donner une histoire qui est terrible. Le téléphone sonne dans la demeure d'une famille de la haute société de Boston. C'est leur fils, de retour du Vietnam, qui téléphone de Californie où il vient d'atterrir. Ses parents sont des gens connus, habitués aux soirées mondaines, aux repas d'apparat. Le jeune homme dit « Je vous passe un coup de fil pour vous annoncer que je compte amener un copain avec moi. » Sa mère répond « Mais bien sûr, mon fils, dis-lui de venir passer quelques jours. » Son fils continue « Maman, je dois te dire que mon copain a perdu une jambe et un bras au Vietnam. Et il est complètement défiguré. Il a aussi perdu un œil. » Une longue pause, puis sa mère répond « C'est bon, amène-le se reposer quelques jours à la maison. » Son fils continue, la voix pressante « Mais maman, tu ne comprends pas, je souhaite qu'il vive avec nous. » Cette fois, après un long silence, elle commence à chercher des excuses. « Mais comment pourrions-nous l'accepter définitivement? Qu'en penserions nos amis? Et comment pourrions-nous nous occuper de lui? Tu sais, nous avons tellement d'engagement. » Un clic, il vient de raccrocher. Quelques heures plus tard, un autre appel téléphonique, c'est la police de Californie. La mère décroche, une voix lui annonce froidement. Nous avons découvert dans un parc un jeune homme avec un seul bras, une seule jambe et un seul œil. Et son visage tout défiguré qui venait de se suicider. Ses papiers d'identité militaire indiquent qu'il s'agit de votre fils. C'est quelque chose de terrible. Des fois, on peut passer à côté de quelque chose de grave. On peut passer à côté de quelqu'un qui est dans une déprime pas possible. Et là, bien sûr, dans cette histoire, les parents vont être complètement traumatisés. Mais le fils a fait bien. Si c'était un inconnu, il ne voulait pas l'accepter. Mais son fils... Mais le fils a compris qu'il ne serait pas le bienvenu. Et il a préféré se suicider. Vous savez, c'est une histoire, mais Vincent a connu la famille Garret, où Vincent, Olivier, Vincent et Charles avaient un copain. Nous avions cette famille qui était des amis. Et puis le fils, lui aussi, ne se portait pas bien. Les parents voyaient que ça n'allait pas, mais ne savaient pas quoi faire. Et puis, ça s'est un peu dégradé. Il rentrait, il prenait son repas, mettait tout sur un plateau, montait dans sa chambre et tout. Et les mois ont passé comme ça. Et un beau jour, ce fils est sorti. Il est allé sur un banc où l'année d'avant, son meilleur copain s'était suicidé. Et lui-même s'est suicidé sur ce banc. C'est terrible parce qu'on peut avoir des gens qui sont proches, qui sont à côté de nous. Et on n'arrive pas à déterminer ce qui ne va pas. Mais il est important de chercher à avoir ces contacts, d'avoir cette compassion, c'est bien le mot qu'il faut, la compassion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On a toujours recours à la prière. Mais la compassion, c'est quelque chose qui aujourd'hui, avec le Covid, est pareil. Il est plus difficile, beaucoup plus difficile d'avoir des relations avec d'autres. Les gens ne se rencontrent plus, ils ont peur. Mais la Bible, Dieu a eu compassion de son peuple. Dieu a eu compassion de nous. Quand il a vu l'état dans lequel nous étions, il a envoyé Jésus. Dieu a envoyé son Fils. Sa compassion est allée jusqu'à donner son Fils Jésus. Et si Dieu a fait un tel geste de compassion, nous devons avoir aussi de la compassion pour les autres. Alors je ne sais pas, des fois c'est pas grand-chose, des fois c'est un coup de téléphone, c'est beaucoup plus facile en ce moment que de faire une visite. Mais un coup de téléphone, que deviens-tu? Comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose? La compassion, c'est de regarder les autres et s'ils souffrent, de souffrir avec les autres, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ça que je voulais vous apporter ce matin. Nous avons tellement reçu au travers de ce psaume comment Dieu a pris soin de nous, veille sur nous et nous donne toutes ces choses et pourvoit à nous. Mais nous ne pouvons pas garder tout cela pour nous. Nous devons avoir un regard sur le monde qui se perd, le monde qui souffre. Et la souffrance du monde aujourd'hui est terrible. Mais Dieu nous a donné cette compassion pour que nous puissions, comme il nous est dit, donne-moi de l'eau vive pour que de l'eau vive sorte de moi. Ce que nous recevons, nous devons le rendre. Ce que nous recevons, nous devons le donner. Moi, je sais que ça fait très longtemps que j'ai compris l'histoire de la dîme. C'était plus je donne, plus je reçois. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait des années et j'ai toujours vu ce système de pompe fonctionner. Plus on donne, plus on reçoit. Et avec le monde, c'est tout à fait le contraire. Je prends, je prends, je prends. Je veux, je veux, je veux. Donne-moi, donne-moi. J'ai le droit, ça c'est encore pire. C'est dans notre pays. J'ai le droit. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Non, nous ne devons pas chercher à avoir, mais chercher à donner. Parce que celui qui donne, il sait ce qu'on a besoin. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et il nous le donne en abondance. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est une réalité. Quand je m'en vais dans un magasin pour choisir un cadeau pour quelqu'un, je passe du temps à essayer de découvrir ce qui va lui faire plaisir, ce qui va lui réjouir. Et ça prend du temps. Quand je reçois un cadeau, j'ouvre le paquet. Oh, puis je suis content. Mais ça ne prend que quelques secondes. Mais chercher à faire plaisir, chercher à rendre service, chercher, c'est ce que nous devons faire. Parce que ce monde-là est en grande, très grande souffrance. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Donner de son temps, penser aux autres, ne pas être égoïste, c'est ce que nous devons être aujourd'hui. C'est ce que l'Église doit être aujourd'hui. Amen.